Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Patrice Geoffroy.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur à Paris Dauphine, membre du Cercle des économistes. Xavier Timbaud, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur principal de l'OFCE et Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Des résultats divisés par deux comparés à 2022, mais en 2022, il y avait eu des cessions exceptionnelles, des cessions d'actifs de l'immobilier pour 800 millions d'euros. Et puis il a fallu provisionner en 2023 les hausses de salaires qui dépassent l'inflation quand on la prend sur plusieurs années à la SNCF. Dire qu'un agent SNCF, un cheminot est maltraité au niveau de sa rémunération, ce serait aller un peu vite. Il y a eu des performances un peu moins bonnes pour Géodis dans la logistique. Et puis, il faut payer les grèves. En 2023, la facture des grèves, c'est 350 millions d'euros. Mais l'entreprise est malgré tout dans le vert depuis la troisième année consécutive. Vous diriez que c'est une boîte normale, Laurent Vronsky ? Elle n'est pas la seule, 100% détenue par l'État. On peut pas considérer qu'être 100% détenu par l'État est une espèce d'anomalie structurelle qui fait que l'entreprise n'est pas comme les autres. Mais la SNCF est-elle une entreprise normale, à votre avis ?
Alors, je pense que ce qui est important, c'est pas que l'entreprise soit à 100% détenue par l'État, c'est l'interférence de l'État. Parce que je rappelle que les entreprises sont soumises à la loi du marché.
Oui.
Ce qui n'est pas exactement le cas de la SNCF.
Le patron d'EDF a pas arrêté de dire qu'il voulait être une entreprise marchande. Et il s'est battu avec Matignon sur cette thématique-là.
J'entends bien. Mais je veux dire, il y a ce qu'il veut.
Oui.
Après, il y a la réalité. Bon, et on voit bien, la SNCF, je veux dire, d'ailleurs, c'est souvent, ça oscille souvent. Je veux dire, un coup, on l'appelle service public, un coup, on l'appelle entreprise. Bon, alors, j'ai l'impression que quelque part, quand la SNCF utilise le mot entreprise, elle se rachète une forme de vertu. Pourquoi ? Parce que je dirais, il y a un vrai sujet avec un réseau qui est en décrépitude avancée. Il y a aussi un vrai sujet social. C'est une entreprise qui est en grève quasiment tous les ans. Je veux dire, c'est quasiment...
Ah ben, elle a été tous les ans au moins une fois en grève depuis 1947.
Hein. Si je suis un petit peu impertinent, c'est à se demander si c'est pas même dans les statuts de la SNCF d'être en grève tous les ans. Bon. Et je dirais, c'est une société qui a un cœur de métier qui est très connu et ensuite qui a beaucoup de périphériques qui le sont beaucoup moins.
Et qui rapportent des sous.
Et donc on peut même se poser la question, je veux dire, si c'est un hasard, je pense que ça n'est pas un hasard et que comme le cœur de la SNCF est quelque chose qui est une espèce de totem politique, social, je dirais pour essayer de contourner la difficulté de gérer ce cœur de métier, je dirais on a créé des satellites qui, eux, dans leur fonctionnement, se rapprochent des entreprises. Donc par rapport à la question que vous nous posez, alors d'abord je pense que la SNCF n'est pas une entreprise, c'est un service public, c'est pas négatif, mais c'est pas une entreprise parce qu'elle ne répond pas uniquement aux lois du marché, et que si on a le gouvernement qui décide de lui attribuer des nouvelles missions, je dirais elle sera aux ordres. Donc, est-ce qu'on doit l'évaluer, est-ce qu'on doit la considérer avec tous les critères habituels d'une entreprise ? Moi je pense que non.
C'est très clair. Alors, une entreprise qui n'obéit pas à toutes les lois du marché, c'est absolument certain. Quand vous avez un pouvoir politique qui veut en faire un outil d'aménagement du territoire, alors qu'elle, elle veut faire de l'argent en vendant des billets de train, à la limite, c'est normal que le pouvoir paye. S'il veut que sur le train du quotidien, l'usager ou le client, maintenant ça y est, on dit client, ne verse qu'un euro sur quatre, c'est le politique qui paye. C'est normal. Si on veut garder des lignes dites petites, alors qu'elles seront jamais rentables, ouvertes, pour des raisons d'aménagement du territoire, c'est normal que le politique baisse. Je vous rappelle ce qu'avait dit Guillaume Pépion en son temps. Il y a certaines lignes, il avait dit, si on mettait des taxis pour transporter le peu de gens qu'il y a à transporter, ce serait moins cher que de garder la ligne ouverte.
Donc, ça veut dire que l'évaluation précise de ce service-là n'est pas économique.
Normal, pas normal, Patrice Geoffroy, la SNCF.
Alors, on pourrait faire un exposé très long, mais on ne va pas avoir le temps. En deux temps, qu'est-ce qu'une entreprise normale ? Est-ce que la SNCF est une entreprise normale ? Et moi, j'aurais déjà beaucoup de difficultés à répondre à la première question.
Répondre à toutes les lois du marché. Vivre dans un monde concurrentiel avec une offre et une demande.
Il se trouve que la SNCF...
Et le risque de faillite.
C'est à la fois un réseau SNCF Réseau qui est en monopole, évidemment, et c'est SNCF Voyageurs, et c'est SNCF Gare et Connexion, et c'est Keolis, et bon. Donc la réponse à la question ne serait pas exactement la même selon ceux qu'on regarde, disons, dans la galaxie SNCF. En tout cas, moi, le point qui me paraît important, c'est d'observer, c'est un point commun d'ailleurs avec EDF, qui a d'immenses chantiers au devant, notamment pour le déficit d'investissement dans l'infrastructure en particulier et qui court sur des dizaines d'années. Lorsqu'on regarde de mémoire, hein, l'âge moyen des actifs ferroviaires en France versus en Allemagne, et si on fait la moyenne de tout, ce qui est totalement idiot, mais enfin, le résultat est le suivant comparativement à l'Allemagne. En France, on est à peu près à 30 ans, en Allemagne, on est à peu près à 17.
C'est ce que j'avais en tête. C'était voilà. Le rapport Spinetta qui avait mis ça en avant.
Donc on a beaucoup accumulé de retard, et Farando, par ailleurs, et qui me paraît en tout cas bien tenir sa maison, en tout cas de la meilleure manière possible, a une vision qui est le x2. Qui est de dire comment est-ce qu'à terme, on peut augmenter, multiplier par deux la part modale du fret et du transport de voyageurs. Évidemment, ça ne se fera pas à moyen constant, ça ne se fera pas à infrastructure constante, et ça ne se fera pas non plus à utilisation à moyen constant de l'infrastructure. C'est-à-dire, grosso modo, il faut parvenir, et c'est notamment l'enjeu d'un certain nombre de dispositifs de signalisation, à faire fonctionner, à faire transporter plus de trains sur la même infrastructure. Donc il y a un gros objectif d'optimisation. Et puis, last but not least, il faut naturellement que les fournisseurs d'équipements, notamment Alstom, soient au rendez-vous au bon moment. Donc on a un immense chantier industriel. Et pour conclure, finalement, moi, ma perception, c'est qu'en fait, on a une formidable réussite du XXe siècle qui a beaucoup vieilli au XXIe. Qui appelle une révolution, notamment dans l'infrastructure, dans les années à venir.
Presque 11 milliards d'euros d'investissement en 2023, dont un tiers à la charge de la SNCF. On va être à un an et demi de retard sur les nouvelles rames attendues. Hein. Il y a 115 rames qui sont dans les tuyaux. Alstom a des petits problèmes industriels, visiblement.
Nous le savons.
Oui, parce que vous fournissez du matériel pour les trains, notamment des compresseurs.
Oui, surtout pour les tramways.
Oui. Une entreprise qui n'obéit pas à toutes les lois du marché, Xavier Timbo. Une entreprise qui, objectivement, ne peut pas faire faillite, car elle a une évidente garantie implicite de l'État. L'État qui a quand même repris à sa charge 35 milliards d'euros de dette de la SNCF au terme de la réforme ferroviaire qui mettait fin au statut. Vous diriez que c'est une entreprise normale, ou elle n'est pas normale et c'est comme ça.
Moi, je rejoins Patrice, c'est assez difficile de définir une entreprise normale. En fait, on va trouver des petites graines d'anormalité dans toutes les entreprises à un moment ou à un autre.
Entre des petites graines et des platanes.
À part chez Laurent Bonsky.
Oh, il est très sympathique ce matin. Merci.
Bon, voilà. Aujourd'hui, Xavier est aimable.
Ça, c'est le premier point. On sait pourquoi la SNCF n'est pas une entreprise normale. Parce qu'il y a une position de monopole naturel avec, on l'a dit, un service public à rendre. La SNCF a un passé glorieux, a un avenir extraordinaire. Son problème, il est plutôt dans le présent aujourd'hui et dans la transition entre ces deux. Donc, on recherche pas la normalité en fait chez la SNCF et on attend pour le futur de la SNCF une contribution majeure à la transition énergétique dans les mobilités, des personnes, des marchandises. Donc, c'est un élément essentiel et on voit bien que ça va pas en faire une entreprise normale du tout. Bon, par contre, y a un point qui est quand même important. Je pense que ça fait c'est un peu comme ça qu'on peut lire de façon positive l'ensemble des réformes qui ont été faites sur la SNCF. Il y a quand même un besoin de transparence. C'est-à-dire que la SNCF soit pas une entreprise normale, qu'il y ait des opérations de la SNCF qui soient subventionnées, que le réseau
soit...
C'est
normal qu'il y ait des subventions.
Tout ça, que le réseau soit soumis à des lois de marché qui sont différentes de celles des transports de voyageurs sur les lignes à grande vitesse, que les régions veuillent subventionner des petites lignes. Tout ça est assez logique et il est tout à fait nécessaire d'avoir des instruments qui permettent de le faire, mais on a aussi besoin d'avoir une transparence des comptes. C'est-à-dire, on peut pas dire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par transparence des comptes?
Transparence des comptes.
J'ai reçu hier, sous embargo, les comptes de la SNCF.
Non, mais c'est que.
J'ai parfaitement compris cash flow, EBITDA.
C'est parce que les choses ont évolué. Si vous regardiez la SNCF il y a 20 ans, en fait, vous aviez un gros paquet avec un résultat qui voulait rien dire parce qu'il y avait une subvention qui n'était pas imputée à quoi que ce soit, à telle ou telle mission. Et du coup, vous saviez que le gros paquet, train à grande vitesse, petite ligne, transport de marchandises, logistique, opérateur de tramway ou de transport en commun dans certaines villes, tout ça, globalement, ça perdait de l'argent. Avec une subvention publique. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Quand on sépare en morceaux, on met le réseau d'un côté, on met les petites lignes régionales avec la subvention des régions qui apparaît, on commence à approcher une situation dans laquelle on va pouvoir, par exemple, calculer combien coûte un voyageur sur une petite ligne en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et cette information, elle est fondamentale, parce que peut-être que Guillaume Pépi a raison. Moi, je pense qu'il n'a pas tout à fait raison. Et que c'est quand même encore un peu moins cher que le taxi, qui est quand même très cher.
C'était un peu un effet de manche. Oui, ok.
Parce que un taxi pour aller de Périgueux à Bordeaux, par exemple, c'est très très cher. C'est vraiment très très
cher. Je pense pas que Bordeaux-Périgueux soit une ligne forcément catastrophique, mais il y a des lignes où il y a personne. Enfin, franchement.
Ok. Bon, mais c'est aussi des choix qui ont été faits dans les régions.
Oui, donc,
c'est
oui. Ce sont des choix politiques. Je suis d'accord. C'est aux régions de payer.
Non, mais c'est surtout aux régions qu'il faut renvoyer ces décisions de gestion en leur disant, bah, regardez, vous faites des choses. Ok, ça coûte très très cher. Vous êtes content de faire des choses qui coûtent très très cher. D'accord, mais expliquez-le à vos contribuables, à vos électeurs, et puis assumez vos politiques. C'est pas à la SNCF de porter.
Et là,
ça.
Vous pensez qu'il n'y a pas assez de transparence.
Et je pense qu'on a fait des progrès dans la transparence, que aujourd'hui la structuration du groupe SNCF entre ces différentes entités permet de mieux lire ces questions. Je pense que les contrats entre SNCF et les régions permettent aussi de mieux mesurer et comprendre quelles sont les subventions aux petites lignes. Je pense que le fait que la SNCF voyageurs aient pour objectif d'afficher un excédent dans l'exploitation des trains qui sont en cours d'ouverture à la concurrence est aussi un objectif qui peut se défendre. Voilà, donc tout ça va plutôt dans le bon sens. Après, ça c'est le verre à moitié plein. On pourrait le regarder à moitié vide en disant toujours très très loin du compte, que tout ça reste encore peu compréhensible, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de choses qui sont étranges. Voilà, donc il y a beaucoup de poussière sous beaucoup de tapis.
Oui, alors allez-y, Laurent Vronsky, Patrice Geoffron, et puis après on avance, bien sûr.
Je pense que la notion de réseau et d'infrastructure est absolument fondamentale. Je veux dire, il faut bien se rendre compte que si on a une infrastructure, c'est-à-dire que si on a un réseau ferré qui n'est pas en état, le TGV, ça va devenir une invention qui va permettre aux voyageurs d'arriver plus vite en retard. Et moi, la question que je me pose, vous voyez, c'est, je veux dire...
En l'occurrence, le TGV, c'est plutôt en état, là.
Oui, mais c'est comme si vous avez une Ferrari sur un chemin de terre. Mmh. Bon, et la question que je me pose, c'est que je pense notre État, notre pays, va avoir un rendez-vous avec l'histoire économique, parce qu'il y a une infrastructure très coûteuse à rénover, à mettre en place, mais on peut dire que c'est la même chose pour les centrales nucléaires. Il y a toute une série de sujets, d'assurer la transition énergétique, il y a toute une série de sujets où on voit que là, il va y avoir un appel d'air absolument colossal. Et je pense que ça peut servir de transition aux prochaines questions qu'on va évoquer.
Oui, absolument. Et il y a Farlooking qui me dit pourquoi la SNCF ne va pas voir au Japon comment les compagnies ferroviaires privées fonctionnent. Là-bas, les trains sont propres, à l'heure et jamais en grève. Ah, que le cas japonais est absolument phénoménal.
Je connais.
Oui, alors le cas japonais, c'est un cas intéressant, mais il faut quand même voir que le Japon est un pays extrêmement dense, dans lequel les lignes en question desservent des points qui sont le point de départ, le point d'arrivée, avec beaucoup de densité de population. Donc il y a beaucoup de voyageurs, donc il y a plus d'argent que sur une ligne Périgueux-Bordeaux, qui, même si ça vous paraît une ligne assez fréquentée, en fait...
Non, enfin, je ne la prends pas à Périgueux-Bordeaux, mais...
Oui, enfin, la densité à Périgueux et à Bordeaux est plus faible que n'importe où au Japon.
Mais ok, mais le fait d'être parfaitement à l'heure, comme au Japon...
Mais ça, c'est une histoire de...
Jamais en grève, comme
c'est
au Japon.
C'est une histoire d'argent, Nicolas.
C'est c'est qu'une histoire... Bah non.
Mais non, mais si, être à l'heure, c'est une histoire de signalétique qui fonctionne.
Ah oui,
c'est une histoire de rails qui sont entretenus. C'est pas... Enfin, je veux dire, les trains, ils n'arrivent pas à l'heure en France, pas parce que les conducteurs se lèvent pas ou arrivent en retard au travail. Les trains, ils n'arrivent pas à l'heure parce qu'il y a des incidents sur les voies, parce qu'il y a des signalétiques qui sont en panne, parce que... Voilà.
En tout cas, ils disent à la SNCF que tous leurs TGV sont blindés. Hein. Ils gagnent pas tous de l'argent à cause des péages, mais les TGV sont blindés. Bon, mais enfin là, c'est une comparaison de la grande vitesse japonaise. Et... Je pense que c'est à ça que pense Farlou. Oui, Patrice Geoffron, allez-y.
Oui, alors, moi, il me semble que l'anormalité des anormalités dans cette entreprise, c'est qu'en fait, c'est un domaine d'activité qui produit beaucoup. Je n'ai pas utilisé un jargon d'économiste d'externalité positive.
Ici, vous avez le droit d'utiliser ce jargon.
Et qui en capte une toute petite partie. Imaginons, par exemple, la situation de la dette publique aujourd'hui, si on avait beaucoup plus investi dans le train, non pas au XXe siècle, mais au début du XXIe siècle. Les conditions dans lesquelles on se serait présenté au moment de la crise des Gilets jaunes, si on avait eu plus de trains du quotidien, les conditions dans lesquelles on se serait présenté au moment de la crise Covid, qui est une crise dont l'impact a été renforcé par la pollution de l'air. Il y a beaucoup de travaux du monde médical. Et puis naturellement, lorsque Vladimir se met à nous faire des misères, si on avait eu également plus de transports publics ferroviaires, eh bien probablement que par exemple la ristourne à la pompe de l'État, à laquelle Total s'est associé par ailleurs quand même de 8 milliards d'euros en 2022, eh bien probablement qu'on aurait fait des économies. Et puis il y a un autre type d'externalité que capte pas la SNCF et qui me semble problématique également dans son business model, pour parler dans ces termes, c'est l'impact sur le foncier. L'impact sur le foncier des villes desservies. Et enfin, tout dernier élément qui, lui, pour le coup...
L'impact sur, vous voulez dire quoi par l'impact sur le foncier des villes desservies? Oui, automatiquement, elle prend du foncier. puisqu'il y a une gare, puisque...
Sur la valeur du mètre carré dans Bordeaux, par exemple, depuis qu'on est passé de 3h à 2h.
Ah ben, clairement.
Ce genre de choses, et qui ne revient pas à la SNCF, c'est un tout dernier élément. Et enfin, singularité que j'ai apprise il y a quelques années dans un petit déjeuner avec Guillaume Pépi, qui m'a expliqué un truc qui m'avait totalement échappé jusqu'à maintenant. Il y a en France à peu près 3 fois plus de villes, écoutez bien, 3 fois plus de villes où s'arrête un TGV que dans le reste de l'Europe entière. Or, nous n'avons pas le réseau de TGV le plus développé. Le réseau le plus développé, il est en Espagne. Alors, il roule moins vite. Il roule moins vite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en France, on a inventé le TGV omnibus. Le TGV qui s'arrête partout, alors c'est évidemment très très vertueux. Ça veut dire aussi que si on vit dans une collectivité qui n'a pas son TGV, il y a un coût d'opportunité et des tas de problèmes qui sont ressentis par les populations. Et me semble-t-il, ça nous conduit en tout cas à avoir un modèle du TGV qui est très différent de celui qui a été adopté par nos voisins.
Mais ce que vous dites là, c'est positif ou négatif en fait ? Parce qu'effectivement, il arrive à Marseille, et puis après c'est un omnibus sur une ligne normale, ça prend des plombes pour aller jusqu'à Nice. Bon.
Oui, la question c'est pas c'est ce qu'il fait avant d'arriver à Marseille, et le nombre d'arrêts, enfin, je crois, mais les choses ont peut-être évolué assez marginalement, mais en tout cas il me semble que l'ordre de grandeur du nombre de villes où le TGV s'arrête en France, alors peut-être pas au quotidien, c'est à peu près 3 fois plus élevé qu'encore une fois dans le reste de l'Union Européenne.
Et donc c'est trop ?
En tout cas, c'est une singularité qui, évidemment, a un impact sur la rentabilité, sur les conditions d'exercice.
J'avance. Je poursuis avec vous, Patrice Geoffron, parce que c'est une idée que vous m'avez soumise hier. C'est vrai que quand on regarde, qu'on fait la liste de l'ensemble des petites reculades sur des engagements, des promesses, des contraintes, des normes vertes. Alors là, le DPE, on l'a changé, sans doute. Je sais que Xavier connaît très bien le sujet. On l'a sans doute changé pour de bonnes raisons. MaPrimeRénov', bah oui, on a retiré une partie des crédits prévus. Les pesticides agricoles, Ecophyto a été gelé. Et puis, le Green Deal européen est en train d'être un peu retricoté parce que ça râle dans tous les pays d'Europe. Les villes qui se rendent compte que là, ça passe pas auprès des populations reculent les dates des ZFE, les zones de faible émission. C'est ce qu'on a fait à Marseille. Les gens n'en veulent pas. Ouh là là, tout le monde va s'énerver. Le bonus écologique est passé à 4000 euros. Il était à 5000 euros pour acheter sa voiture électrique. Le leasing social, ça marche tellement bien que, on l'a corseté d'ores et déjà, puisqu'on a déjà doublé le nombre de commandes prévues. On en voulait 25 000. On en a validé 50 000. On peut pas aller plus loin. Vous y voyez une révolution verte ou pas ?
Alors, en fait, il y a beaucoup...
Juste en teasing, on a une 40, mais on y continue après.
Oui. Il y a beaucoup plus insidieux que ça. En fait, c'est moins les reculades que l'inaction et le temps perpétuel de la réflexion.
À quoi pensez-vous ?
Qui met considérablement en retard. Eh bien, un futur président de la République, qui l'était également, nous a dit, dans la campagne électorale, que son mandat serait écologique ou qu'il ne serait pas. On s'attendait à un corps de règles adopté rapidement avec de la mise en œuvre. Et de fait, on ne l'a pas eu. En tout cas, on ne l'a pas eu. Alors que les chiffres sont tout à fait clairs. Et ce sont notamment des chiffres qui sont fournis par l'administration elle-même. Dans le domaine des transports, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici. Il s'agit de passer, entre maintenant et 2030, 2030 c'est demain, de 130 millions de tonnes à 90 millions de tonnes de CO2. Ça, c'est l'objectif. Alors, on peut considérer que tout ça est coûteux. Mais si on parvient à faire ça, on économisera des dizaines de milliards d'euros d'importation de pétrole et de produits pétroliers. L'enjeu, il est là. Et donc, le fait d'attendre est très coûteux. Il est très coûteux parce qu'une tonne de CO2, c'est ce que nous dit également l'administration française, a des coûts pour la collectivité mondiale de 250 euros la tonne en 2030. Et donc, plus on attend, évidemment, plus ces coûts se diffusent. Mais ça a également des coûts sur nous. Encore une fois, rester dépendant des importations de pétrole, c'est être à la merci d'une matière première qui traverse le détroit d'Ormuz, qui va remonter par la mer Rouge, toute une série d'endroits, et on n'est absolument pas à l'abri d'avoir x2 sur le prix du baril pratiquement du jour au lendemain. Donc il faut se mettre à l'abri de ce type de dépendance.
On en reparle dans un instant, le sujet me passionne. Alors après, il y a ceux qui vous disent, oui, mais on a toujours l'impression d'être le mauvais élève, alors que finalement, on se rend compte quand on regarde quand même, quand on se compare, on se console quand même, j'ai l'impression, Patrice Geoffron. Puis il y a des choses, moi, qui m'ont intéressé, notamment dans les communications de l'Agence internationale de l'énergie, qui attribue à cette baisse de la demande, à la fois de gaz et de pétrole, qu'elle anticipe pour 2024, des conséquences, des premiers effets concret des efforts de transition verte, notamment en essayant de trouver des alternatives aux énergies fossiles, notamment du fait de la sobriété qui s'est quand même un petit peu installée dans nos modes de vie. Bon, je sais que Xavier Thimbault est très sensible au sujet du réchauffement climatique, donc il me dira ce qu'il en pense. J'entends en tout cas ce que vous me dites. On marque une pause. Ça nous amènera d'ailleurs à poser la question de savoir si un contre-choc énergétique est actuellement en train de se dessiner avec cette très très forte baisse de la consommation qui a été dévoilée avant-hier par GRT Gaz. On est retombé au niveau de 1996 en France. C'est tout à fait surprenant. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.